Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 25 mars, merci d'être fidèle à ce rendez-vous que nous vous donnons chaque samedi pour revenir sur 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction. Comme chaque semaine, nous allons beaucoup voyager et comme depuis quelques semaines, nous allons aussi nous attarder sur l'actualité politique en France avec la campagne pour l'élection présidentielle. Et c'est un philosophe qui est en notre compagnie, il s'appelle Yves Michaud, il vient d'écrire « Citoyenneté et loyauté », un livre publié chez Kairo. Une semaine d'actualité donc, une émission à podcaster sur le site de la radio RFI.fr. Bonjour Yves Michaud.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. La dernière fois que nous avons conversé ensemble, c'était dans Idée, c'était l'année dernière, pour votre livre sur la bienveillance.
Exactement.
Et là, c'est une sorte de suite que nous allons vous proposer à nos auditeurs sur le thème de la citoyenneté. Je rappelle que vous êtes philosophe, spécialiste de philosophie politique et d'esthétique aussi. Et là, vous analysez cette crise de la citoyenneté que connaît la France. Je vous cite tout de suite. Reconstruire la citoyenneté, c'est revenir aux idéaux d'engagement citoyen de la République, créer les conditions d'une nouvelle loyauté, d'une citoyenneté voulue, engagée et non passive et consommatrice de droits et de bénéfices.
Oui, alors, l'idée est assez simple, c'est que contrairement à beaucoup, je ne pense pas qu'il y ait une crise de la démocratie. Parce qu'en fait, on a beaucoup de moyens de s'exprimer, de peser sur les choix. Disons, le reproche qu'on pourrait faire, c'est que ça part dans tous les sens. La démocratie, c'est jamais celle qui m'irait. Mais en revanche, il y a une crise de la communauté politique, pas la communauté au sens communautariste, mais la communauté politique au sens de ce qui fait que nous faisons société ensemble. Et donc, ce que j'essaye de définir, c'est à quelles conditions on peut, je dirais, revitaliser, en quelque sorte, la communauté politique. Et il me semble qu'il y a des moyens assez simples de le faire, parce qu'au fond, nos valeurs sont assez simples et elles sont assez partagées. C'est les valeurs de la devise de la République française. C'est liberté, égalité. Moi, je mets solidarité plutôt que fraternité. Et à partir de là, je dirais, si on éduque les citoyens, à commencer par l'éducation, si on change aussi les modes de sanctions, hein, aussi bien d'encouragement que de répression, on doit pouvoir revitaliser ces ce qu'on appelle des valeurs, sans que ce soit, je veux dire, ni autoritaire, ni purement symbolique.
Alors, votre livre sort dans un climat politique très particulier, on va en parler tout à l'heure, une campagne pour l'élection présidentielle qui est sans équivalent, hein.
Ah bah écoutez, oui, effectivement, j'imaginais pas d'ailleurs quand j'ai écrit ce livre pour prolonger, expliciter des choses qui étaient déjà dans mon livre de l'an dernier, Contre la bienveillance, j'imaginais pas qu'il aurait autant de pertinence. Quand j'avais écrit Contre la bienveillance, j'avais annoncé, bien avant le Bataclan, j'annonçais qu'il y aurait des nouveaux attentats et que, d'ailleurs mon éditeur avait essayé de me faire supprimer ces passages, puis le 14 novembre ils avaient changé d'avis, mais là j'imaginais pas, par exemple le chapitre sur les incivismes, depuis les incivismes disons bénins, refus d'obéissance, manifestations, jusqu'aux incivismes, je dirais, financiers. J'imaginais pas que ce chapitre aurait une application, par exemple, avec la candidature de Fillon, et quand même de pas mal d'autres dans la classe politique.
Alors, Yves Michaud, il nous faut à nouveau parler de terrorisme, justement, hélas, et revenir bien sûr sur l'attentat de Londres, mercredi. Un homme vêtu de noir et portant une barbe, on connaît depuis jeudi son identité. Il s'agit d'un Britannique de 52 ans, identifié comme Khalid Massoud, né Adrian Russell Ajao, a lancé sa voiture sur la foule devant le Parlement de Westminster avant de poignarder un policier en essayant d'y pénétrer. L'attaque a fait 3 morts et plusieurs dizaines de blessés. Reportage de notre envoyé spécial Daniel Vallot.
Le périmètre entourant l'enceinte du Parlement est totalement bouclé par les forces de police. Sur la rive sud de la Tamise, on aperçoit le pont où a débuté l'attaque meurtrière, puis dans le lointain Big Ben et Westminster. Elizabeth, employée du Parlement britannique, se trouvait à l'intérieur du bâtiment lorsque l'attaque a débuté.
They said that there was a problem outside.
Ils nous ont dit qu'il y avait un problème à l'extérieur, qu'il y avait un homme avec une arme. Et soudain, nous avons entendu un bruit. C'était un homme qui criait un bruit très fort. Quelques minutes plus tard, nous nous sommes tous retrouvés dans le hall central. Nous étions tous réunis là, les employés, les députés et les lords. Ensuite, la police a fait une annonce pour nous expliquer ce qui s'était passé. Et c'est là que nous avons appris combien de personnes avaient perdu la vie. J'ai travaillé au Parlement pendant presque 27 ans et je n'avais jamais rien vécu de pareil. Je n'avais jamais eu aussi peur qu'aujourd'hui. En réalité, je n'avais pas peur, je ne faisais que prier.
Cette employée du Parlement peine à quitter les lieux. Pour elle, c'est le symbole de la démocratie britannique qui a été visé. Mais pas question de céder à la peur, nous dit-elle. Ce jeudi, nous reviendrons travailler comme si rien de tout cela n'était arrivé.
Et écoutez ce qu'a dit quelques heures seulement après cet attentat le Premier ministre britannique Theresa May, mercredi donc.
Ces rues de Westminster, qui abritent le plus ancien parlement au monde, sont habitées par un esprit de liberté qui résonne dans les coins les plus reculés de la planète. Et les valeurs que véhicule notre parlement, comme la démocratie, la liberté, les droits de l'homme, l'état de droit, forcent le respect des peuples partout dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle il est une cible pour ceux qui rejettent ces valeurs. Permettez-moi d'être très clair aujourd'hui. Toute tentative de mettre en échec ces valeurs par la violence et la terreur est vouée à l'échec. Demain matin, le Parlement se rassemblera comme d'habitude. Nous nous réunirons comme d'habitude. Et les Londoniens et les autres venus du monde entier dans cette grande ville se lèveront et passeront leur journée comme d'habitude. Ils prendront leur train, ils quitteront leur hôtel, ils marcheront dans ces rues, ils vivront leur vie et tous ensemble, nous avancerons sans rien lâcher au terrorisme, sans jamais laisser les voies de la haine et du mal nous séparer.
Et j'ajoute que la police britannique a procédé hier à de nouvelles arrestations jugées importantes, arrestations évidemment liées à cet attentat. Yves Michaud, c'est encore un acte de terrorisme contre la démocratie.
Alors à je voudrais faire trois commentaires. Premièrement, je veux dire la réponse de Madame May est exemplaire,
très digne,
parce que effectivement très digne et justement elle va directement au point, c'est-à-dire exactement comme pour le massacre de Charlie Hebdo, qui était contre la liberté d'expression. Là, on a une attaque contre un symbole de la liberté d'une des premières monarchies parlementaires de l'histoire européenne et d'un état de droit. Donc là, elle a très bien vu et effectivement, c'est ça qui est visé par les terroristes. C'est ma première remarque. La seconde, c'est qu'on a aujourd'hui, et n'oublions pas que la semaine dernière, il y a eu Orly en France et puis il y a eu l'affaire de la rue de Montreuil dont on parle pas beaucoup. La seconde chose à remarquer, c'est qu'on a aujourd'hui deux sortes de terrorisme. Il y a un terrorisme qui est complexe, monté comme l'affaire du Bataclan, avec des commanditaires, des relais, des circuits. C'est pas sûr que l'État islamique ait encore les moyens de monter ça, surtout qu'en plus les services de renseignement ont quand même énormément augmenter leur efficacité.
Et que l'offensive en Syrie, en Irak, contre l'État islamique commence à porter ses fruits.
Exactement. Mais surtout aussi la montée en puissance du renseignement et les échanges d'informations entre services. Mais en revanche, il y a un second terrorisme, comme celui qui s'est manifesté à Londres et aussi à Paris, c'est ce que j'appelle un terrorisme ubérisé. C'est-à-dire, vous avez une centrale d'appel qui est quelque part en Irak ou en Syrie, et puis c'est des appels à qui veut faire terroriste. Et donc, c'est un terrorisme qui est extrêmement peu prévisible, qui est relativement peu destructeur, parce que il trouve pas forcément des armes. Le type d'Orly, il était obligé d'essayer d'arracher le fusil mitrailleur d'un militaire, hein. Je veux dire, on trouve pas d'armes. Ce qui est encore le plus efficace, c'est effectivement le camion, comme à Nice, comme à Berlin, comme à Londres. Mais on va continuer à avoir ce genre de menaces, d'autant que, une troisième remarque, c'est que tous ces objectifs sont, un, des objectifs symboliques, et deux, ce sont en général aussi des rituels d'anniversaire. L'attentat de Londres, c'est aussi un anniversaire de Bruxelles. J'ajouterais que pour la France, le péril est d'autant plus grand qu'on est en période électorale et que ces actes sont aussi des manières d'influencer le vote.
Alors, le terroriste est un Britannique, est un Anglais. En France, beaucoup des terroristes étaient des Français aussi. Vous vous posez dans ce livre consacré donc à la citoyenneté la question de la déchéance des nationalités dont on a beaucoup parlé, on s'en souvient, en France.
Bien évidemment,
a été abandonné.
Parce que ça a été en fait la perplexité d'où est née contre la bienveillance, puis ensuite citoyenneté et loyauté. C'est ce qui me scandalisait, si vous voulez, c'est que c'était des citoyens français ou des citoyens anglais qui s'en prenaient à leurs concitoyens au nom d'une remise en cause radicale des valeurs de la communauté qui nous unit. Si vous êtes citoyen français, normalement, vous êtes censé respecter les valeurs de la République. Et ces valeurs de la République, encore une fois, elles sont ni très contraignantes, ni très nombreuses. Hein, on leur demande pas d'adhérer à l'histoire des Gaulois, ni à la charcuterie, ni etc. On leur demande liberté, égalité et, disons, transfert, solidarité sociale. Bon, donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on fait avec des citoyens qui, je dirais, renient, qui sont non seulement déloyaux, mais qui renient leur citoyenneté, notamment en faisant allégeance à l'État islamique avant de passer à l'acte. Moi, personnellement, je pense que les mesures répressives s'imposent, et parmi ces mesures répressives ultimes, il y a la déchéance de nationalité, mais alors, je dirais pas seulement pour les binationaux, parce que, je veux dire, la production d'apatrides est quelque chose qui n'a rien de diabolique. Le statut d'apatride existe. C'est pas un statut, je dirais, stigmatisant. C'est que simplement, vous vous retrouvez étranger dans le pays où vous êtes. On peut même déchoir de la nationalité, par exemple, des Français qui reviendraient d'Irak et qui se retrouveraient en France comme, je dirais, résident étranger. Ça voudrait dire qu'ils perdraient quand même un certain nombre d'aides sociales et de protections sociales que accorde aussi la République.
Une semaine d'actualité.
Yves Michaud, partons maintenant pour les États-Unis. Les patrons du FBI et de la NSA ont été auditionnés lundi par la commission du renseignement du Parlement américain, commission toute puissante, on le sait, notamment sur les liens de Donald Trump avec la Russie. Washington lundi, Anne-Marie Capovaccio.
À ce stade, deux éléments apparaissent clairement. Barack Obama n'a pas fait espionner la tour Trump et les services de renseignement américains n'ont pas demandé aux Britanniques de procéder à des écoutes. Ensuite, la Russie a bien tenté d'influencer l'élection américaine en minant la campagne d'Hillary Clinton et favorisant Donald Trump. Les directeurs du FBI, James Comey, et de la NSA, l'amiral Rogers, sont d'accord sur ce point. En revanche, les deux hommes, soumis à un feu roulant de questions, ont refusé de s'avancer sur le terrain de la collusion, collusion entre la campagne du candidat Trump et les services russes. Le FBI comme la NSA se sont abrités derrière l'enquête en cours que l'on ne peut commenter, tout en reconnaissant enquêter sur le sujet. Parmi les membres de la commission, les Républicains ont fait leur possible pour disculper par avance l'équipe du président Trump. Les démocrates, au contraire, à travers leurs questions, ont mis l'accent sur les zones d'ombre de l'investigation.
Direction l'Irak maintenant, où l'offensive contre Mossoul, encore en partie aux mains des djihadistes de l'organisation de l'État islamique, se poursuit. Écoutez d'ailleurs un des reportages de notre envoyé spécial, Sami Boukhalifa.
Tirs de roquettes de l'armée irakienne. Les hommes du lieutenant Mohamed Ali Karim défendent leur position.
C'est un tir de canon SPG-9 contre Daesh. Vous voyez les immeubles juste en face, ils sont sous le contrôle des djihadistes. On les cible avec nos roquettes. Nos soldats ont détecté des mouvements suspects de l'ennemi. Ils ont tiré.
De part et d'autre de la ligne de front, chaque camp veut tenir à distance son adversaire. L'offensive est officiellement arrêtée, mais pas question pour l'armée irakienne de reculer. Le lieutenant Mohamed Ali Karim et ses hommes tiennent un immeuble stratégique. Dans les étages supérieurs, ils doivent pourtant faire preuve de vigilance. Les djihadistes ont déployé des tireurs embusqués. Le lieutenant parle tout doucement pour ne pas être repéré.
Regardez, là-bas, il y a un tireur ennemi, à moins de 20 mètres.
Autre danger pour les soldats irakiens à Mossoul, l'enlèvement. Cette semaine, sur la ligne de front, les djihadistes ont enlevé un officier et 8 de ses hommes.
Reportage de Sami Boukhalifa, nous y sommes là. On avait vraiment l'impression d'être à Mossoul. Yves Michaud, un commentaire sur ces deux informations, les ennuis de Donald Trump et les enquêtes du FBI et de la NSA?
Alors sur Donald Trump, je pense que moi je suis de ceux qui ne s'inquiètent pas trop parce que je dirais la structure institutionnelle américaine est très solide, la séparation des pouvoirs fonctionne bien et donc les lubies et les loufoqueries de Trump finiront soit par le perdre, soit tout simplement elles n'opéreront pas. Je veux dire, il peut toujours mettre en scène la signature de décret tonitruant. On voit bien qu'il y a ou un juge qui arrête ça ou bien que le Sénat et les représentants ne vont votent pas.
Il y a les Américains, le peuple américain aussi qui se mobilise, les villes.
Oui, mais alors moi
aussi,
je crois plutôt, si vous voulez, à la force des institutions. C'est justement un sens que j'ai beaucoup de respect pour les institutions américaines. Elles tolèrent effectivement l'élection de gens assez médiocres. Et finissent toujours par céder. Bon, cela dit, il faut voir aussi que Trump, moi je partage pas beaucoup des jugements qui sont portés sur lui en France, parce que c'est pas un populiste, c'est un gros plutocrate un peu vulgaire, c'est un Américain
c'est
un Américain du Middle West. Ouais. On croit toujours que l'Amérique c'est la côte Est ou la côte Ouest, où il y a des allumés qui font du zen et puis des nouvelles technologies. Non, l'Amérique profonde c'est Trump. Maintenant, je crois qu'il arrivera pas très loin. Une chose à préciser quand même, ce qu'il faut dire est très, très plus importante, ça va au-delà du cas américain, c'est que la politique russe, la politique étrangère russe est extrêmement efficace, extrêmement pénétrante. Hein. Il y a de l'ingérence, effectivement, mais ça vaut aussi pour les élections en France, ça vaut aussi pour tous les Wikileaks et des choses comme ça.
On verra tout à l'heure que Marine Le Pen vient d'être reçue hier.
Exactement, vous avez une ingérence de la politique russe dans les affaires d'autrui. On revient aux bonnes vieilles traditions, hein. Je veux dire, au 19e siècle, l'histoire de la diplomatie, c'était continuellement des ingérences de toutes sortes, avec des cinquièmes colonnes. Bon, maintenant, c'est des ingérences informatiques, c'est de la communication, etc. Mais il n'y a pas vraiment de quoi s'affoler. Moi, je suis pas sûr que Trump achève son mandat.
Alors, Mossoul, ça vous inspire un commentaire? Cette offensive, donc, qui avance pas à pas,
Mossoul,
c'est une des capitales, en fait, entre guillemets, de l'organisation de l'État islamique.
Mossoul et Raqqa, d'abord, c'est pour nous faire souvenir que la question est de l'État islamique est une question irako-syrienne.
Oui. Hein,
et que derrière l'organisation de l'État islamique, il y a en fait la structure du Baas de Saddam Hussein. C'est pour ça qu'il faut prendre ça au sérieux, parce que c'est très bien organisé. Maintenant, il est vrai aussi que la reconquête... Bon, je pense que l'État islamique est quand même sur la défensive. La reconquête est lente et difficile, parce que sinon c'est des carnages. Ils ont, ce que disait pas le reportage, ils ont aussi notamment toutes les voitures... suicides chargés de dynamite qui sont extrêmement redoutables. Donc c'est pas du tout qu'il y a un bourbier, c'est pas du tout ça. C'est que les gens essayent d'avoir le moins de pertes possible dans la reconquête, mais elle va se faire.
Alors, dans votre livre « Citoyenneté et loyauté », Yves Michaud, vous parlez aussi de la question de la trahison, en fait, hein, qui est rarement évoquée, trahison par rapport à un pays, par rapport à une citoyenneté. Les jeunes Français qui sont partis combattre aux côtés de l'organisation de l'État islamique ont manifestement trahi.
Alors, ils ont trahi, mais c'est difficile à établir, parce qu'il faut établir qu'ils ont participé à des combats, et en l'occurrence, ils n'ont pas participé à des combats contre la France.
Reprenant le livre, c'est la trahison de certaines valeurs, en tout
alors,
cas.
Alors, c'est la trahison de certaines valeurs, mais c'est difficile de les poursuivre pour haute trahison. Oui. Vous voyez, c'est ça. On peut les poursuivre, par exemple, quand ils sont terroristes, mais là, en l'occurrence, puisqu'on est aussi dans un monde d'état de droit proliférant, c'est extrêmement difficile de dire que... Et eux, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils auront un avocat qui s'appellera Maître Berton ou Dupont-Moretti? Ils diront qu'ils étaient des touristes. Vous comprenez? On aura du mal à montrer qu'ils n'étaient pas des touristes.
Vous faites aussi un lien avec une certaine forme d'incivisme, avec l'incivisme, tout simplement, et l'état de droit, d'ailleurs, dans votre livre.
Ça fait partie des choses malséantes et malsonnantes.
Ah, il n'est pas politiquement correct, mais il est intéressant. C'est pour cela que vous êtes assez...
C'est que je mets en cause, effectivement, l'état de droit. Non pas que je sois contre l'état de droit, mais je
pense
que...
Comme vous n'êtes pas contre la bienveillance,
mais non, absolument pas. Je ne suis pas un homme méchant, particulièrement méchant, mais parfois ironique. Mais non, ce qui se passe, c'est que l'état de droit a proliféré, je dirais, pour notre protection, mais aussi sous l'influence des magistrats, des avocats, etc., des hommes politiques. On a voulu consolider l'édifice de l'état de droit. Et ce que je constate, et là il faut avoir l'honnêteté quand même de le reconnaître, c'est que l'état de droit aujourd'hui défend beaucoup plus ceux qui ont des moyens, notamment des moyens judiciaires de se défendre, que les gens qui n'en ont pas. Si vous avez de quoi payer des cabinets d'avocats exceptionnels, ou si vous avez une histoire exceptionnelle qui permet de faire de la publicité aux avocats qui s'occuperont de vous, hein, comme c'est les avocats au départ de Abdeslam, hein, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire jouer tous les mécanismes, disons, bloquants de l'état de droit, et votre affaire va devenir à la fois interminable, et vous pourrez même dénoncer les atteintes aux droits de l'homme qui vous ont faites. C'est bien ce qui s'est passé pour Salah Abdeslam dans sa prison. Donc, en revanche, si vous êtes pris sur le fait que vous passez en comparution immédiate à Marseille, vous allez vous retrouver avec 3 mois de tôle, en 10 minutes.
Yves Michaud, nous allons faire, on apprécie votre franc-parler et votre lucidité, on va faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans quelques 3 minutes. À tout de suite.
Rendez-vous.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve avec le philosophe Yves Michaud pour la suite de notre revue des principaux événements de la semaine avec les reportages de la rédaction. Dans quelques minutes, nous parlerons de l'Afrique, mais auparavant, nous allons bien sûr nous attarder sur la campagne pour l'élection présidentielle en France.
Une semaine d'actualité.
Une campagne plus que jamais dominée par les affaires politico-judiciaires. À retenir cette semaine, la démission du ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux, remplacé par Mathias Fekl, après des révélations selon lesquelles il aurait fait travailler ses filles à l'Assemblée nationale comme attaché parlementaire, fille mineure, lors des vacances d'été, dit-il. Le parquet financier en tout cas est saisi, Anthony Latier.
Le couperet est tombé moins de 24 heures après les révélations de l'émission Quotidien. Je ne veux à aucun prix que ce débat fait d'amalgame puisse porter atteinte au travail du gouvernement, déclare le désormais ex-ministre. Ses filles ont-elles réellement travaillé ou pas? Bruno Leroux affirme son honnêteté, mais il dit en substance ne pas pouvoir rester à un poste aussi stratégique, ministre de l'Intérieur, tout en se défendant. La décision a donc été prise rapidement. Difficile en effet pour les membres du gouvernement, le Parti Socialiste et son candidat, de critiquer François Fillon, accusé d'avoir détourné de l'argent public en employant sa femme, et de défendre dans le même temps Bruno Leroux, même si les sommes sont moins importantes. C'est Mathias Fekl qui remplace Bruno Leroux, normalien, énarque, il est âgé de 39 ans. C'est une promotion éclair pour lui, qui a rejoint le gouvernement seulement il y a 2 ans et demi. Il était jusqu'ici secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, du tourisme et des Français de l'étranger. Mathias Fekl a affiche son soutien au candidat socialiste Benoît Hamon. C'est important de le souligner dans le contexte actuel.
Mercredi, l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné a fait de nouvelles révélations sur François Fillon. Non pas l'homme politique cette fois, mais l'homme d'affaires, Pierre Olivier.
Selon Le Canard Enchaîné, François Fillon aurait vendu son carnet d'adresses à un milliardaire libanais. Tout commence en décembre 2014. Alors qu'il est redevenu député, François Fillon se rend à Beyrouth pour rencontrer les chrétiens d'Orient. Mais il y aurait aussi fait la connaissance de Fouad Marzoumi, milliardaire libanais, l'un des plus gros constructeurs mondiaux de pipelines. Le journal satirique croit savoir que François Fillon aurait alors fait miroiter des rencontres à ce riche homme d'affaires, notamment avec le président russe Vladimir Poutine et le PDG de Total, Patrick Pouyanné, deux hommes potentiellement très intéressés par l'achat de pipelines. À travers sa société 2F Conseil, François Fillon conclut un contrat avec le Libanais Fouad Marzoumi. Extrait du document à l'appui, Le Canard Enchaîné révèle qu'une rencontre entre les trois hommes a bien eu lieu à Saint-Pétersbourg le 19 juin 2015. Et pour ce rôle d'intermédiaire, le contrat stipule que François Fillon doit toucher 50 000 $ en deux fois, mais également un intéressement sur chaque marché conclu allant jusqu'à 2,5% des bénéfices.
Je vous vois sourire, Yves Michaud, on va vous écouter dans un instant. Vladimir Poutine, en tout cas, n'a pas besoin d'intermédiaires pour rencontrer des hommes d'affaires. C'est ce qu'a dit, en tout cas, de son côté, le Kremlin, mercredi. Selon le quotidien Le Monde, cette fois, l'enquête sur les possibles emplois fictifs concernant François Fillon a été étendue à des soupçons d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux. Les époux Fillon ont pu produire des faux pour justifier les salaires versés à Pénélope, selon le quotidien. C'est donc dans ce climat que s'est déroulé le débat opposant 5 des 11 candidats à l'élection présidentielle lundi sur la première chaîne de la télévision française TF1, Julien Chavannes.
Il aura fallu attendre près d'une heure et demie pour que le débat se réchauffe un peu. La page des affaires est ouverte. Jean-Luc Mélenchon, très à l'aise, se frotte les mains.
J'ai admiré vos pudeurs de gazelle quand vous dites que la campagne a été polluée, je ne parle pas pour vous madame, a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Non mais je tiens à le préciser. Ici, il n'y a que deux personnes qui sont concernées, Monsieur Fillon et Madame Le Pen.
Franchement, ça pourrait venir.
Les trois autres, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Alors, s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans le même sac.
François Fillon esquive les coups, reste dans son coin, apparaît distant. C'est sur l'économie que le candidat de la droite se fera le plus entendre en corrigeant ses adversaires. Exemple avec Emmanuel Macron sur les 35 heures.
Si vous ne les supprimez pas dans la loi, si. Ça veut dire que vous les laissez. Non, mais et donc, elles s'imposent à toutes les entreprises.
Si le problème...
C'est pas du
si
tout
le,
la
vraiment,
liberté.
Le problème...
Le candidat d'En Marche, souvent visé, a dû repousser les nombreuses attaques de Marine Le Pen.
Vous savez quoi, monsieur Macron, vous avez un talent fou. Vous arrivez à parler 7 minutes, je suis incapable de résumer votre pensée, vous n'avez rien dit.
Et j'ai encore parlé, madame Le Pen.
C'est le vide absolu sidéral.
C'est incroyable.
À la fin de cette très longue soirée, pas vraiment de gagnant ni de perdant. Au moins, les candidats auront pu souligner leurs différences sans prendre trop de risques. Thank you.
7 jours en France.
Avant de vous retrouver, Yves Michaud, puisque nous parlons de politique et de télévision, il nous faut revenir aussi sur les propos qu'a tenu François Fillon sur France 2 jeudi soir. Il accuse le président François Hollande d'être derrière toutes les révélations contre lui, un complot en quelque sorte fomenté par un cabinet noir, comme on dit, un scandale d'État, dit-il. Et pour ce faire, il s'appuie sur un livre qui vient de sortir et qui est une enquête sur la police et la politique sous le mandat Hollande. Écoutons François Fillon.
Il y a un livre qui sort ces jours-ci, dont j'ai pu lire les bonnes feuilles, un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau, ce qui est une illégalité totale. Comment il est branché directement sur Bercy, sur Tracfin, sur des informations qui lui sont apportées en permanence. Comment il est au courant des moindres faits, des moindres filatures, y compris concernant son ancien Premier ministre Manuel Valls. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé le cabinet noir, en tout cas à travers ses allégations.
Alors écoutons maintenant Didier Assou, le journaliste au Canard Enchaîné et co-auteur de ce livre Enquête sur le ministère de l'Intérieur.
Non, on raconte pas du tout ce que dit Monsieur Fillon. Ce qu'on raconte dans le livre, c'est ce que François Hollande a fait comme nombre de ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation traditionnelle, classique de l'appareil policier. Il n'a pas mis en place un outil policier au service de la politique. On a le sentiment, à entendre François Fillon ce soir, qu'il cherche un moyen de se raccrocher aux branches, ou en tout cas de continuer à faire campagne.
Et François Hollande dit hier que François Fillon était en deçà de la dignité et de la responsabilité à respecter dans une campagne présidentielle. Je vous voyais littéralement accablé, Yves Michaud.
Ah bah, je dirais que sur tout cela, il y a tellement à dire qu'on ne va pas arriver à en faire le tour. D'abord, je voudrais souligner une chose, c'est qu'ils sont quand même un peu gonflés, ces journalistes comme Assou et ses collègues. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, un, il n'y a pas de cabinet noir, c'est évident qu'il n'y a sûrement pas une pièce avec un écriteau marqué cabinet noir. Mais deux, François Hollande fonctionne comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire il se fait remonter les informations. Il s'est même coupé un jour en disant « je sais tout ce que fait Nicolas Sarkozy ». Les auteurs disent même que c'est ce qui leur a mis la puce à l'oreille et qui a lancé leur livre. Donc c'est bien joli de dire une chose et puis de dire son contraire. En fait, je veux dire, il n'y a pas de cabinet noir, pas plus qu'il n'y a de trafic d'influence en politique, c'est évident. Hein, je veux dire, je vous dis, encore une fois, il n'y a pas une pièce marquée cabinet noir, de même que les gens qui font du trafic d'influence, pour en venir à Fillon, ne vont pas se mettre dans une salle de café pour signer un contrat de corruption. Il faut être sérieux. Non, on se fait des échanges de service. Alors, que Fillon soit pas clair, ça, c'est certain qu'il ait monté sa société de service. Pour moi, c'est plus grave d'ailleurs que les emplois fictifs.
Oui, parce que là, ça va pas avoir un impact sur la politique.
Mais c'est permis par la loi. Oui. Le problème, c'est que c'est permis. Je veux dire, moi, je pense que le cumul des fonctions et des emplois, quand on est membre de la représentation nationale, devrait être absolument exclu, aussi bien d'ailleurs pour les professeurs d'université, pour les médecins, dont je me demande comment, comme Debré, ils arrivent à diriger un service tout en étant toujours dans les médias, et que pour les affairistes qui ont des cabinets de conseil, je veux dire, d'ailleurs, Monsieur Cazeneuve a eu un cabinet de conseil, enfin, il a pas eu, il était chez Auguste de Bouzy, un cabinet d'affaires en même temps qu'il était député, donc ils sont tous un peu comme
affaires,
ça, il faudrait absolument séparer, et je dirais que, à beaucoup d'égards, la classe politique, elle s'est bien arrangé son statut au fil des années et que, effectivement, tout ce qu'elle fait est légal. Fillon n'est pas plus coupable que les autres, je le défends pas. Simplement, ce sur quoi je le critique, Fillon, c'est que le type de programme dont il est porteur ne pouvait être vraiment soutenu que par quelqu'un qui était au moins en apparence assez intègre.
Hein, je veux dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a assoupli un petit peu son programme.
Oui, mais enfin, bien sûr, mais enfin, ça marchera pas, non. Ça marche pas, parce que c'est du machiavélisme, je dirais, tout standard. Machiavel dit bien que l'homme politique peut tout à fait mentir, mais il faut quand même qu'il mente avec une certaine crédibilité, et surtout, je dirais, avec une certaine distance par rapport aux actions. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on fait pas un programme qui demande de la sueur, des larmes et du sang à la Churchill. Et puis en même temps, on s'aperçoit qu'on a une cabinet de conseil, on rémunère ses enfants, on rémunère sa femme, etc. etc. Cela dit, il n'est pas tout seul dans ce cas. Je rappellerai une chose à propos du Liban. Notre président de la République, Chirac, il a été logé pendant des années, non pas par un fournisseur de pipeline, mais par un des plus gros constructeurs libanais et de l'immobilier en Arabie Saoudite, le cabinet Hariri. Oui.
Et cette question de la citoyenneté est liée aussi à l'exemplarité que devraient donner les hommes politiques.
Alors, l'exemplarité... Mais c'est plus que l'exemplarité. Moi, je pense en fait tout simplement d'avoir un comportement qui soit correctement légal. Il y a des pays où l'Angleterre, où on s'est aperçu qu'il y avait des abus, au Parlement européen aussi, on s'est aperçu qu'il y avait des abus, on a rectifié le tir. C'est pas normal que les hommes politiques puissent employer, par exemple, comme assistant parlementaire leurs femmes, mais à ce moment-là, je dirais, c'est une question encore plus compliquée, parce que s'ils emploient leur maîtresse, qui va le savoir, vous voyez ? Donc, je crois qu'il y a un problème de moralisation, toute bête, de la même manière que, écoutez, je veux dire, moi je suis contribuable, je suppose vous aussi, quand Tevenou ne paye pas ses impôts pendant 3 ans, moi je sais que quand je ne paye pas mes impôts, au bout de 8 jours, j'ai un rappel à l'ordre. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une complicité dans l'appareil d'État, soyons sérieux.
Il y a quelque chose qui vous a amusé aussi, enfin si je puis dire, Yves Michaud, c'est la déclaration de patrimoine des différents candidats rendue publique et consultable aussi hein, sur Internet, où l'on s'aperçoit que, je ne dirais pas que Emmanuel Macron...
n'a rien. Il n'a pas grand-chose de plus que Poutou. Il doit avoir un vélo, peut-être, en plus.
Ah, ce sont des déclarations volontaires, hein. Ça n'a pas été vérifié. C'est...
Oui, mais disons que c'est là aussi où il y a quelque chose qui va pas du tout. Moi, si vous voulez, à la limite, en tant que philosophe m'inspirant du XVIIIe siècle, j'ai les plus grands soupçons et à face à des hommes politiques qui gèrent si mal leurs propres affaires. Comment pourrait-on confier les affaires d'un pays qui voudrait retrouver la croissance à des gens qui sont infoutus d'avoir le moindre patrimoine? C'est quand même quelque chose de bizarre. Je dirais qu'à la limite, si, Macron, étant donné qu'il a rien, je lui ferai confiance pour faire disparaître, tel un Robert Houdin, le déficit français.
Alors quand on dit qu'il a rien, il faut être précis, il a des comptes bancaires...
Mais il y a 3 fois rien sur ses comptes bancaires.
Un livret de développement durable aussi,
oui, c'est ça.
40 000 euros, 20 000 euros sur le livret A, et puis une assurance vie dont la valeur de rachat s'élève à 90 000
oui,
euros.
C'est ça, ils ont des bricoles, on dirait qu'ils n'ont jamais gagné leur vie. J'ai été professeur d'université toute ma vie, c'est pas un salaire transcendant, et j'ai plus d'argent qu'eux.
Donc vous allez pouvoir vous présenter à l'élection.
Si je me présentais, on dénoncerait sûrement le candidat des riches.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons prendre la direction de l'Afrique maintenant, Yves Michaud, je sais que l'Afrique vous intéresse, avec d'abord la rencontre du président rwandais Paul Kagame avec le pape François lundi au Vatican. Le Vatican qui a fait son mea culpa, il s'est excusé pour l'implication de certains religieux dans le génocide de 1994, Rome, Olivier Bonnel.
En novembre dernier, le gouvernement rwandais jugeait encore inadéquates les excuses des évêques catholiques du pays pour la participation de certains fidèles et religieux dans le génocide. Lors de sa rencontre avec Paul Kagame, le pape François s'est pourtant placé dans la continuité de son prédécesseur Jean-Paul II, sans évoquer de responsabilité directe du Vatican dans les massacres. Néanmoins, le président rwandais est ressorti ravi de sa rencontre et le pape lui-même n'a pas caché son enthousiasme lors de leur tête-à-tête. Qu'est-ce qui a donc changé pour que le ciel s'éclaircisse entre Rome et Kigali? Assurément du pragmatisme et la finesse diplomatique du pape François qui, en invitant le président rwandais, a souhaité désamorcer la crise et instaurer une nouvelle base de dialogue. Raffaello Zordan est journaliste à la revue Nigrizia, spécialiste dans l'actualité africaine.
Je crois que cette visite était un moyen de débloquer la situation, de créer des rapports moins tendus avec le régime de Kagame. Ce qui a changé, c'est que Kagame a compris que prendre frontalement l'église institutionnelle ne lui apportait aucun bénéfice.
En évoquant la purification de la mémoire, le pape François s'est bel et bien tourné vers un avenir apaisé où les contentieux passés comme la mort de 3 évêques ne doivent pas être source de blocage. Un avenir où l'église du Rwanda, comme dans la RDC voisine, cherche à être un pôle de réconciliation. Pour Rome, il en va aussi de l'avenir de l'église dans le pays, à l'heure où de nombreux catholiques se sont tournés ces dernières années vers les églises pentecôtistes.
Direction la Centrafrique maintenant et un reportage de Pierre Pinto sur la situation dans le pays, alors que la situation humanitaire précisément se dégrade en raison de la hausse des violences et des foyers de tension selon l'ONU, qui déplore une baisse du financement de l'aide internationale. Un reportage sur les producteurs de coton appelés les cotonculteurs.
À la sortie ouest de Bambari, Paul Manalenga, le président des cotonculteurs de la Waka, vit dans un petit site de déplacés après avoir dû fuir son village il y a 3 ans lors d'un raid d'hommes armés. Mais désormais, il a du mal à se départir de son sourire. Il est convaincu que 2017 sera l'année de reprise de la culture du coton dans la Waka. Le président Touadéra l'a promis.
Je suis sûr, ça va redémarrer. Nous aurons une récolte. Et je l'ai dit à haute voix, hein, ça c'est sûr.
parce que j'ai déjà confiance aux producteurs qui ont soif de faire le coton. Ça fait beaucoup d'emplois.
Il y a 10 jours, Faustin Archange Touadéra, en visite à Bambari, a fait un geste. Il a remis à Paul Manalenga 16 millions de francs CFA en paiement d'arriérés dus aux cotonculteurs. La reprise du coton était un engagement du candidat Touadéra aux producteurs de tout le pays l'an dernier. Promesse qu'il va pouvoir tenir grâce au soutien de la Banque mondiale. Jean-Christophe Carré est le représentant de la Banque mondiale en RCA.
C'est important de redonner confiance aux cotonculteurs en leur payant les arriérés. Mais il va falloir que le secteur privé indique également aux cotonculteurs qui sont prêts à acheter la production. C'est-à-dire il faut que les gens qui achètent le coton, qui l'égrènent sur place, relancent les campagnes, parce que les campagnes de coton sont préfinancées en fait par le secteur privé. L'acheteur, en début de saison, distribue aux paysans des engrais, des semences, et leur donne l'assurance que la production leur sera achetée.
Avant son arrêt complet en 2012, la filière coton faisait vivre 12 000 petits producteurs dans la Ouaka.
Partons pour la Guinée avant de vous retrouver, Yves Michaud, avec une note positive. Il y en a suffisamment rarement pour qu'on s'y attarde un moment. Dans un mois environ, Conakry deviendra la capitale mondiale du livre, désignée par l'UNESCO. La ville se prépare donc, les écoliers surtout, et les petits champions de la lecture. Reportage de notre correspondante Coralie Pierret.
Bien mon petit.
Récitation. Afrique.
Dans la bibliothèque du Centre culturel franco-guinéen, des élèves enchaînent des récitations de poésie. Ce jour, ils sont une quarantaine venus des 5 communes de Conakry en compétition pour le concours des champions de la lecture. Parmi eux, Mamadou Kaba, un livre à la main.
Le livre là s'appelle Yankadi. C'est un livre qu'on nous a donné, ça fait au moins 2 semaines.
Et tu l'as lu ?
Oui, j'aime bien lire. On dit souvent que la lecture est la nourriture de l'esprit.
Qui dit ça ?
Mon ami me dit ça et notre professeur, il répète ça 2 fois.
Deuxième. Aminata Camara.
La finale de ce concours se déroulera à l'ouverture de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, un an où l'univers des mots sera à l'honneur en Guinée. Pour Aminata Diallo, la présidente d'un club littéraire, la priorité c'est d'encourager les jeunes générations.
Le problème actuel de la jeunesse c'est qu'on ne lit pas. Quand on est au lycée, il y a des œuvres qui sont au programme. Mais les gens ne vont pas au-delà de ce qui est dans le programme.
Mais aussi peut-être un problème d'accès aux livres.
Par exemple, ici au CCFG, c'est que 15 000 francs pour les enfants. D'ailleurs, il y a des étalagistes, là, les bouquinistes qui vendent les livres à prix réduit. Donc il faut juste qu'ils le veuillent.
Selon un rapport du ministère guinéen de l'enseignement, près de 65% de la population est analphabète.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire, y compris sur la page Facebook Semaine d'Actu. Bonjour aujourd'hui à Thérèse, à Cotonou, à Annie, à Arras, dans le nord de la France. Un salut à Alpha Saïdou, à Bamako, à Kossi, à Lomé. Enfin, un bonjour à Boubacar, à Niamey. Une semaine d'actualité, nous vous retrouvons, Yves Michaud, très attentif. Vous avez écouté avec attention tous ces reportages sur l'Afrique. Je rappelle que vous avez écrit Citoyenneté et Loyauté, un livre publié chez Caro. C'est beau, cette passion de la lecture qu'expriment ces enfants.
Alors, moi, cette séquence sur l'Afrique, elle m'intéresse beaucoup, parce que l'Afrique m'intéresse beaucoup et je prends les choses tout à fait à cœur. Alors, c'est vrai que cette séquence sur la lecture, elle est très juste, parce que c'est vrai qu'il y a un désir de s'instruire, un désir d'apprendre la langue française, et un désir de lire formidable. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que les livres sont hors de prix. Je veux dire, alors de ce côté-là, moi je passe tout de suite, je vais laisser de côté le Rwanda, question que je connais très mal, et puis je veux dire qui est très très épineuse, et la Centrafrique que je connais encore moins, mais je connais quand même pas mal d'autres pays africains. Ouais. Un des gros problèmes qu'on a, c'est face à une Afrique qui change beaucoup. Face à une Afrique qui est très dynamique, face à une Afrique jeune, qui n'est plus du tout l'Afrique de la France-Afrique. Mmh. Hein, on continue effectivement à faire voyager des valises de billets, hein, de
potentats, exactement.
Mais cette Afrique, elle n'existe plus. Ouais. Hein, je veux dire, elle est encore des potentats, hein, je veux dire, mais elle existera de moins en moins. Je dirais que de ce côté-là, je veux dire, ce que je critique et ce que je regrette profondément, c'est que la France n'est pas une politique de la la francophonie qui soit la dimension, je dirais, des réalités africaines. C'est-à-dire que on traite la francophonie par-dessous la jambe, le réseau des instituts français est exsangue et extrêmement pauvre, et puis, je dirais que, regardez la campagne électorale, personne n'en parle. Or, je veux dire, la force politique de la France, au Maghreb, en Égypte, en Afrique, c'est la langue. Et de ce côté-là, il faudrait faire un effort gigantesque. Moi, l'autre jour, je participais à un colloque sur la question de la culture aujourd'hui. Je disais, il faudrait transférer une grande partie des budgets dépensés en pure perte, notamment pour l'audiovisuel télévisé en France. Il faudrait transférer une grande partie des budgets sur la francophonie, à la fois pour le rayonnement culturel, mais aussi pour le rayonnement politique. Les élites en Afrique, elles sont très dynamiques, elles se développent. Elles sont pompées maintenant par les Américains. C'est eux qui les font venir une fois qu'on a appris. Ouais. Il faut vraiment revoir complètement notre politique africaine, en finir avec la France-Afrique, avoir une politique très généreuse parce que la langue est porteuse justement de tout, y compris de commerce à terme. Et là, je veux dire, moi, je trouve que on traite très très mal l'Afrique.
Alors revenons à la citoyenneté, Yves Michaud, à ce livre percutant que vous venez d'écrire. Vous voulez une conception, je vous cite, de la citoyenneté active, volontariste, engagée et loyale, telle qu'elle fut conçue par les penseurs des Lumières radicales et commença d'être mise en œuvre par les hommes de la Révolution française. Et dans ce livre, qui est un livre aussi de propositions, il se veut, ce livre, un livre lucide et volontariste, vous préconisez donc l'instauration d'un service civique obligatoire de 3 mois pendant les vacances pour les jeunes, avec à la fin, je crois, un serment de loyauté.
Voilà. Alors, ce service venant à la fin, je dirais, d'un enseignement civique très solide, simple, mais très solide, durant l'école primaire et durant le collège. Et effectivement, après ça, il y a un service civique où on vérifie d'abord l'acquisition de ses connaissances de la République, et puis on fait le bilan des capacités intellectuelles, des déficiences, etc., comme avant, pendant les 3 jours. Avant, pendant les 3 jours, il arrivait qu'on découvre des types qui n'avaient pas le certificat d'études, qui avaient
3 jours, c'était la période de sélection des hommes qui faisaient autant du service militaire.
Voilà, c'est ça. Et on découvrait des gens qui n'avaient pas le certificat d'études et qui avaient 140 de quotient intellectuel. Et on leur proposait à ce moment-là la possibilité de devenir quelqu'un d'autre. Bon, je crois qu'un service civique, prestation de serment, je dirais, à l'antique ou sur le modèle de la confirmation religieuse ou de la bar mitzvah, c'est-à-dire prêter consciemment serment à la République et à ses valeurs, et puis entrer dans la majorité civique, c'est-à-dire droit de vote, mais aussi entrer dans la majorité pénale, c'est-à-dire abaissement de la majorité pénale aussi, fin de l'exception de minorité entre 16 ans et 18 ans.
Voilà. Avec un rôle accru de l'éducation.
Alors, avec un rôle accru de l'éducation, il se trouve que les expériences que je fais dans les collèges, j'ai beaucoup enseigné à philo, j'ai mené des expériences importantes et longues d'enseignement de la philosophie au collège. J'ai recommencé cette année. On peut vraiment former les enfants. Il y a un moment où ils sont extrêmement ouverts, inventifs, intelligents, sans préjugés, et c'est là qu'il faut faire porter tous les efforts. Actuellement, le problème de l'éducation nationale, c'est qu'elle dysfonctionne comme c'est pas possible, et elle dysfonctionne pas par manque de moyens, parce que des moyens, je peux vous dire qu'il y en a. Elle dysfonctionne pas parce que les profs sont mauvais, parce que les profs, ils sont plutôt bons, ils sont plutôt jeunes, etc. Elle dysfonctionne parce que l'organisation, les programmes, la surcharge, la bureaucratie sont délirantes.
Mais ça, c'est un constat que l'on fait depuis des années.
Et on fait depuis des années, mais justement, pourquoi les programmes sont si mauvais? Les programmes, ils sont faits pour vous et pour moi. Donc quand vous les lisez, ils sont épatants. Ils sont faits pour les associations de parents d'élèves, ils sont faits pour les journalistes, ils sont faits pour les députés, mais ils sont pas faits pour être enseignés. La plupart des profs vous disent, le programme, si je veux l'enseigner, ou bien je suis très superficiel et je le fais à la va-vite, ou bien je peux pas le faire, quoi. Je veux dire, je peux pas approfondir, et ou bien on va me critiquer parce que je ne traite pas l'intégralité du programme. J'ai oublié Jeanne d'Arc, ou j'ai oublié les Gaulois, ou j'ai oublié
la fameuse question de l'histoire à l'école,
un des points qui est le plus fragile, celui de l'enseignement d'histoire. Mais moi, je suis pas pour l'enseignement d'une histoire nationale, mes positions sont non identitaires. Je suis pour l'enseignement de, par exemple, qu'est-ce que c'est que la dimension historique de la réflexion? Qu'est-ce que c'est que la dimension chronologique de la réflexion? Qu'est-ce que c'est que connaître quelque chose d'historique? Et là, quand on en parle aux enfants, mais ça les passionne. Hein, parce qu'ils ont rapport à l'histoire à travers la BD, les mangas, les jeux vidéo. Ils connaissent beaucoup mieux Conan le Barbare que Louis XIV, vous comprenez. Donc il faut revoir beaucoup de choses. Alors il n'y a pas que ça dans mon projet de réforme. Je pense aussi qu'il faut que la transparence des contributions financières et notamment de la fiscalité soit vraiment établie, parce que pour le moment on a des systèmes fiscaux qui sont absolument illisibles. Donc du coup tout le monde croit qu'il est traité injustement, et de la même manière la transparence, je dirais, des aides sociales doit aussi être complètement revue, parce que là encore, on a un maquis de choses illisibles. Et si vous interrogez les Français, ils vont tous vous dire qu'il n'y a pas de transferts sociaux, alors qu'il y a énormément de transferts sociaux, mais que, disons, tout le monde a droit à un traitement différentiel, donc personne ne se rend plus compte de rien.
Dites-moi, vous l'avez envoyé au candidat, Yves Michaud, votre livre, Citoyenneté.
Alors, j'avais l'intention, il est sorti le début janvier, j'avais l'intention de faire un service de presse pour les candidats à la fin du mois de janvier, puis quand j'ai vu le tour que prenait la campagne, j'y ai renoncé, parce que je me suis dit que c'était vraiment jeter mes livres nulle part.
Et ça, c'est pas bon signe, vraiment pas
ça,
bon signe.
Ça, c'est pas bon signe, mais en même temps, le fait que les choses aillent si mal, moi, je trouve ça encourageant, parce que je pense que on est à une époque de basculement.
Ah oui, vous voulez dire qu'on a touché le fond de la piscine.
Il va y avoir un renouvellement. Voilà. Ouais. Vous savez, moi, je dis à la fin du livre, au fond, on est un peu dans la situation 1786-1788. On n'aura pas une révolution, il n'y a pas de Bastille à prendre aujourd'hui, mais on est quand même en temps de basculement et de révolution. Ça peut être une révolution par les urnes.
Merci Yves Michaud, il faut lire votre livre avant justement d'aller voter, hein, pourquoi pas, livre intitulé Citoyenneté et loyauté, il est publié aux éditions Kero.
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs.